Bienvenue aux rencontres d'Elios. Aujourd'hui, nous allons découvrir un artiste qui se nomme Mr. Marquez. Membre de l'Association des artistes du Loir-et-Cher, dans son atelier des greniers de Vineuil. Ces greniers sont un tiers-lieu culturel, local, coopératif et citoyen, regroupant artisans, artistes et producteurs locaux dans une bâtisse du XVIe siècle. Maintenant, place aux rencontres.
Et bah du coup, bienvenue. Donc là ici c'est Charlotte, qui est tapissière, donc elle reprend du vieux mobilier, des vieux fauteuils, des vieilles chaises, qu'elle retape, qu'elle remet au goût du jour. Juste à côté, on a Sandrine qui fait des culottes menstruelles, donc qui est couturière et qui propose ses services aux femmes qui ont besoin de culottes spéciales pour les règles. Donc voilà. Ici on est à l'atelier de Arnaud, donc le propriétaire. Donc c'est un atelier d'ébénisterie, de menuiserie.
Ça n'existait pas ça avant ?
Là il y a tout qui est en train de changer parce qu'en fait là, à partir de l'année prochaine il va y avoir des écoles, des formations d'ébénisterie, de métallurgie. Donc en fait toute cette partie là est en train de refaire. Et de l'autre côté il y a aussi d'autres ateliers qui sont en préparation pour l'année prochaine. Quoi.
Là où il y avait la menuiserie ?
Ouais, donc du coup là ils ont ramené plein de nouvelles machines pour être équipés pour l'année prochaine.
Ça va faire du bruit.
Ça va faire un peu de bruit. Ouais. Donc bon après ça reste des ateliers hein, donc c'est pas si gênant que ça. Là derrière ici c'est la salle de musique, donc il y a batterie, guitare, basse, il y a tout ce qu'il faut pour s'éclater un peu. Okay. On va refaire le tour. Un chantier. Là avant il y avait une couturière, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc elle a déménagé, maintenant c'est une nouvelle artiste peintre qui est là. Donc elle s'est installée il y a très peu de temps.
La couturière est partie ?
Ouais. Ouais, elle est partie et du coup elle a laissé place à une artiste peintre.
Il est joli ce petit atelier.
Ouais, ouais, il est très
avec
mignon.
Plein de fenêtres.
Tiens, là-bas. Donc là, c'est censé être une salle de réunion. Réunion pour conférence ou séminaire. Là, pour l'instant, ça sert un peu de stockage. Donc là, vous voyez, j'ai quelques tableaux qui sont là aussi. Ça, c'est des nouvelles séries de tableaux avec des mélanges de personnages Disney, Looney Tunes.
Donc, la culture pop, votre question de la culture pop.
Ouais.
La pop culture.
Là voilà, la panthère rose en vitrail.
En vitrail.
Ah, ouais.
Génial.
Et du coup j'ai fabriqué la caisse lumineuse. Donc derrière en fait on voit pas mais il y a des LED. Donc faut le brancher, puis avec la télécommande on peut changer les lumières.
Ah ouais.
Ah c'est top.
Donc c'est un tableau que j'avais déjà fait un peu dans ce style là. J'avais fait mon premier tableau de la panthère rose. Que vous aviez
oui,
dû voir avec Gary Wilson.
Ce qui a été l'occasion de se rencontrer.
C'est ça. Et du coup, de cette série-là, je me suis dit, en fait, je vais continuer dans le même esprit, je vais en faire d'autres. Et puis, finalement, je suis parti sur des Mickey dans le corps de Bugs Bunny dans le corps de Donald, Daffy Duck dans le corps de Pluto. Et puis, j'en ai encore plein à réaliser, parce que finalement, c'est interminable. Une fois qu'on commence à mélanger les personnages, ça peut partir dans tous les sens et ça donne vie à de nouvelles chimères. Quoi. Donc là.
Il y a une moto.
Ouais, c'est la moto du propriétaire.
Ah oui, on voit la salle de musique derrière.
Ouais.
Il y a un prof qui donne des cours ici.
Pas du tout.
Non, en fait,
c'est open bar. Chacun. C'est ça. Chacun peut venir.
C'est bon à savoir ça.
Peut venir faire un peu de musique si vous avez un groupe.
On pourrait faire un atelier
musical. La salle aussi. Et puis voilà.
Donc là, l'espace un peu cuisine.
Donc on a un petit espace cuisine pour réchauffer nos plats quand on mange ici. Ou laver nos pinceaux, enfin faire des choses comme ça. Quoi. C'est C'est petit mais efficace. Donc,
oui, pour nettoyer.
Ouais, nettoyer les pinceaux, des trucs comme ça.
Et ce matin, tu es tout seul ici?
Ouais, là je suis tout seul ce matin.
Ouais.
Donc.
Le samedi, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui viennent travailler?
Bah après, c'est l'emploi du temps, c'est propre à chacun. Quoi.
C'est ça. Enfin,
d'habitude, il y a du monde, mais là, peut-être qu'ils ont d'autres choses prévues aussi. Ouais. Hein, donc, c'est aussi ça qui est chouette, c'est qu'on a chacun nos clés, les gens qu'on veut.
Pour les auditeurs, on peut peut-être décrire le lieu. Parce que...
Ouais, bah là, on est dans un ancien hangar d'ébénisterie. Donc, c'est un lieu qui a été un peu revisité à la façon du propriétaire. Qui adore chiner tout le temps des vieilles structures, des vieux escaliers, du vieux mobilier. Et du coup, bah, ça donne cet esprit un peu boutique d'atelier. Enfin, ça fait un peu décor de cinéma à l'intérieur.
Ouais,
donc c'est vrai
loft.
Que c'est, ouais, c'est ça, c'est un grand loft avec des couleurs différentes.
Acier.
Et c'est vrai que ça donne du cachet au lieu, quoi. Donc tout est de la récup et même les façades sont des façades de récup qu'après ils recoupent pour assembler ici dans les bonnes proportions. Donc,
et on c'est... est dans quel type de structure juridique? On est dans une association?
Ouais, c'est une association.
Une association.
Ici, ouais. Donc voilà.
Ok.
Donc là avant il y avait une coach thérapeute aussi mais qui a déménagé la semaine dernière. Donc il va peut-être y avoir une nouvelle personne, peut-être un vitrailliste, peut-être un céramiste, on ne sait pas, on verra. Et là, je ne sais pas si vous étiez... Il y avait quelqu'un déjà à l'époque quand vous étiez venu dans celui-là.
Il y avait des cours de yoga.
Cours de yoga, donc elle a déménagé aussi dans un autre espace. Et là, du coup, maintenant, c'est un relieur qui est là, donc qui fait de la sérigraphie aussi.
D'accord.
Et qui fabrique des carnets. Donc lui, il fait plein de petits carnets. Qui met en collaboration avec des illustrateurs pour faire les couvertures. Et son idée, c'est de créer des carnets de croquis pour les vendre ensuite et puis,
okay.
Puis avoir des petits objets sympas. Quoi.
Ouais.
Parce que même les coutures sont faites à la main, enfin tout est fait à la main.
Comme un vrai relieur.
Ouais. Avec des techniques 100% bio, donc du coup des encres bien spécifiques. Pour être un peu plus écolo, quoi. Donc,
mm-hmm.
C'est le papier recyclé, c'est plein de choses comme ça. Quoi.
C'est un bel espace aussi.
Mmh. Ouais. Et puis bah, là-haut. Donc là-haut, il y a la vitrailliste avec qui j'ai fait la panthère rose. Donc je lui ai filé mon patron de mon tableau et puis bah, elle a créé le vitrail.
C'est ça,
fonction.
C'est elle qui l'a fait.
Ouais.
Ouais, c'était ma question en bas, je ne l'ai pas posée.
Je
ne
suis pas vitrailliste moi.
Oui, c'est un travail très spécifique.
C'est un travail très spécifique.
Ouais.
Ouais, bien sûr.
Elle a mis combien de temps à peu près?
Elle a mis plusieurs semaines. Donc ouais, non, c'est un gros boulot. C'est une belle pièce aussi, donc
ouais.
Ça fait 1 m x 70, donc c'est quand même assez imposant. Ouais. Et puis voilà. Puis après, on a une autre artiste teintre qui est ici, qui s'est installée aussi. Et ici, c'est mon atelier. Vous l'avez déjà vu, vous savez à quoi il ressemble. Très lumineux. On s'y sent bien. C'est plutôt bien rangé là. Je sais pas la dernière fois que vous êtes venu, si c'était un peu le. C'était pas pareil.
Il y avait des bombes par terre.
Ouais. Voilà, bon, il y en a encore un peu, mais.
J'avais pris pas mal de photos. On voit les Donald et.
Ouais.
Et les fameuses femmes.
Les gardiennes des éléments, ouais.
Qu'on a vu exposer.
Ouais.
À la galerie Wilson.
Ouais, c'est ça. Donc il y en avait deux, il y en a deux qui étaient en bas,
ouais,
et puis
il
y en a une qui est chez moi, puis deux autres que j'ai vendues. Donc,
d'accord. Donc elles sont... Parce que c'était un quadrotype, c'était quoi?
Ouais, c'était une série, il y en avait cinq, mais c'était une série. Après, effectivement, ça aurait été intéressant de les vendre ensemble.
Ouais, c'est ce que j'avais suggéré.
Mais bon, ça fait quand même un budget.
Ouais,
on ne peut pas prendre les cinq en même temps, surtout que c'est des grands formats. Donc, il faut avoir la place pour les stocker, quoi. Donc, c'est pas grave.
Elles sont séparées.
Ouais, c'est ça, elles sont séparées, mais Mais elles ont trouvé des beaux lieux. Donc,
oui, et puis comme elles représentent chacune un élément.
Ouais.
Peut-être que les gens sont attirés par cet élément-là.
Non, elles s'intègrent très bien là où elles sont, donc, okay. Donc c'est cool. Il y a la verte, donc l'élément air, qui est dans une cave à vin à Amboise.
Okay.
Donc ça colle parfaitement. À l'intérieur, c'est très chaleureux. Il y a du bois, il y a des plantes. Donc finalement, ça, c'est très raccord. Okay. Et l'élément eau qui est parti, lui se retrouve dans une chambre qui est totalement bleue, plein d'œuvres d'art aussi dans les tons bleus. Donc ça marie parfaitement. Quoi. Donc c'est top. Là, j'ai fini le Mickey hier, celui-là, qui est encore dans un autre style. Et c'est vrai que là, j'ai fait beaucoup sur cette série qui est très géométrique, qui demande beaucoup de précision, beaucoup de concentration. Et là, j'avais envie de stopper un peu et de partir sur quelque chose de plus libre, de plus dans le lâcher prise. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien parce que finalement je suis parti d'un tableau tout noir que j'ai peint en noir. Et puis finalement après j'ai attaqué comme ça en faisant des éclaboussures, en faisant des coulures, en faisant des...
Directement sur la toile ?
Ouais, directement
sur la toile. Sans passer par l'ordinateur du coup ?
Sans passer par l'ordinateur. Donc il y a un peu d'ordinateur pour récupérer les logos Disney. Pour faire des pochoirs. Mais il y a très peu d'ordinateurs là, c'est vraiment 100%... de l'intuitivité.
Et quand on dessine Mickey, j'y connais rien, mais on n'a pas de copyright ou de choses comme ça.
Alors Mickey est passé dans le domaine public.
Parce que c'est ancien.
C'est ancien, du coup ça fait plus de 50 ans qu'il est mort, le créateur. Donc tout ce qui est attrait au Disney maintenant, c'est tombé dans le domaine public.
Ok, donc tout le monde peut s'en rendre.
Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes en fait qui utilisent tous ces personnages de dessins animés. Parce que finalement, ça fait partie du domaine public, donc tout le monde peut les réutiliser maintenant. Du coup, je me suis renseigné auprès d'avocats spécialisés pour justement pas faire l'erreur et puis.
Bah oui. Devoir des royalties à.
Bah c'est ça, à Disney, ça doit faire mal, je pense.
Oui.
donc ouais, non, ça m'a fait du bien là de sortir un peu de cette rigueur là que j'avais sur ces tableaux et puis d'apporter un peu de matière aussi. C'est intéressant quoi.
Donc, vous pouvez le décrire, Camille ? Est-ce que vous le sentez ?
Décrire ce tableau ?
Ouais.
Je vous avoue que j'avais besoin d'expérimenter un peu.
On a tous des périodes un peu dark en nous. Et même si cette série était très joyeuse, il y a des moments où j'accumule aussi quand même des énergies pas négatives, mais qui stagnent en moi. Et ça peut se traduire par plus de noir, plus de couleurs sombres. Et finalement, à la base, il n'était pas comme ça. Il était beaucoup plus fade. J'avais utilisé des couleurs plus... Plus, 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 comment dire, moins gai. Et finalement, j'avais des jaunes un peu plus pâles, j'avais des rouges vraiment plus noirs. Et à la fin, je me suis dit, bah, en fait, ça y est, j'ai fini de lâcher ce que j'avais lâché. Il faut que je rajoute de la couleur.
Ouais, okay.
Donc, je suis repassé par du fluo pour justement réveiller un peu le
rose,
noir.
Le jaune.
Et ouais, du coup, j'ai rajouté du jaune avec fluo, du rose fluo.
Les coulures sur... C'est...
Ouais, parce qu'à la base, c'est en fait, bien, Mickey, il était vraiment... je l'avais effacé, en fait.
Ah ouais.
Donc on avait cet aspect-là un peu de Mickey, donc vraiment très, très flou. Et finalement, je suis repassé au fur et à mesure par-dessus. Je me suis dit, bon, non, en fait, j'ai plus envie de le faire comme ça. Donc, je le reprends plus net. Et finalement, ça me va très bien comme ça. Donc
et
je suis très content
de...
Là, c'est un format de 1 mètre par 1 mètre.
1 mètre par 1 mètre.
Ouais. Donc ouais, non, ça passe vraiment par... par de l'émotion à chaque fois dans ce genre de tableau. Enfin, en tout cas, dans tout ce qui est plus lâcher prise, quoi.
Mm-hmm.
Là, on est plus sûr de contrôle.
Ouais.
Et là, j'ai besoin aussi, moi, de lâcher prise sur certains moments pour expérimenter autre chose aussi.
C'est une première fois ?
C'est non. Pas vraiment une première fois. C'est peut-être la 12e ou 13e fois que j'expérimente ce genre de style. Mais les précédents, j'étais vraiment sur des choses très plus très pop en fait.
Ouais.
C'était beaucoup de couleurs primaires.
Ouais.
Il y avait très peu de noir. C'était vraiment très très flashy quoi. Donc là, on va sur du flashy, mais avec une sensibilité un peu plus sombre. Donc
ouais.
C'est
la profondeur du noir.
Ouais. Mais ça me va très bien. Ça fait partie de moi à ce moment-là.
Bien
quoi,
sûr.
Donc, puis je peux pas faire tout le temps des choses très très pop. J'ai moi aussi des voilà, on a tous nos problèmes à gérer, tous notre stress à évacuer. Et moi, ça me permet justement de lâcher un peu quoi.
Du coup, la première question, c'est d'où venez-vous ?
Je viens de Blois, je suis né à Blois. J'ai grandi dans un petit village à côté, c'est Saint-Claude-de-Diray. Et du coup, ouais, je suis originaire de cette région.
Depuis quand êtes-vous passionné par les métiers créatifs ?
Je dirais depuis tout petit. Hein. J'ai commencé déjà à dessiner, je devais avoir 2-3 ans, quoi. L'âge de tenir un crayon et puis de pouvoir faire des coloriages. Et puis depuis tout petit, je sais pas, à l'âge de 5-6 ans, peut-être 7 ans, j'avais envie d'être architecte. Je connaissais pas du tout cet univers, mais l'architecture me parlait. Donc depuis tout petit, je disais que je voulais être architecte, sans savoir trop exactement ce que c'était, quoi. Donc voilà, et puis finalement j'y suis allé, et puis ça m'a dévié sur d'autres choses, quoi.
Quel est votre parcours professionnel ?
Parcours professionnel, du coup, après la troisième, j'ai fait un bac pro assistant d'architecte. Donc je suis allé vraiment dans cette branche-là aussi. J'ai suivi mon instinct d'enfant. Et du coup, j'ai fait 3 ans en architecture. Je voulais continuer dans ce domaine pour aller dans des écoles à Paris un peu plus spécialisées en architecture. J'ai pas été accepté, malheureusement, donc je me suis réorienté vers une mana en art appliqué, donc une mise à niveau. Et après cette mise à niveau en art appliqué, je me suis lancé dans un BTS design graphique. Et ensuite, après ce BTS design graphique, j'ai fait un bachelor en édition, donc là plus spécialisé dans tout ce qui est réalisation de maquettes, de livres, magazines, tout ce qui touche à l'édition. J'ai créé ma boîte après, je suis monté sur Paris pour travailler quelques années à Paris avec un magazine de design graphique et une agence d'événementiel dans le design, l'architecture, la gastronomie et l'hôtellerie. Donc je suis quand même resté aussi dans cet univers un peu design, un peu architecture, parce que je suis attiré naturellement par le beau, par le des jolis visuels, quoi, en tout cas. Et après ça, j'ai eu une période un peu sombre sur Paris qui m'a ramené vers quelque chose de plus essentiel. Donc je me suis formé à des pratiques de thérapie spirituelle, des pratiques de soins énergétiques aussi. Et du coup, tout ça, je l'ai fait sur Blois. Donc j'ai quitté Paris parce que Paris, c'était trop pour moi. Donc je suis revenu sur Blois pour faire toutes ces formations-là. Et ensuite, cette remise en question personnelle et spirituelle m'a ramené à l'art, en fait, donc au métier d'artiste.
Et aujourd'hui, est-ce que vous vivez de votre art ?
Oui, j'en vis. Il y a des mois, c'est plus compliqué que d'autres, mais oui, je peux dire que j'en vis. Ça peut varier chaque mois, mais j'ai aussi des ateliers à côté qui me permettent de combler le manque de vente d'œuvres. Des ateliers avec des particuliers ou avec des écoles, donc avec des collèges. Okay. J'interviens souvent dans les maternelles, dans les collèges, dans d'autres types de structures.
Qu'est-ce que vous faites dans ces ateliers ?
Là, on part plutôt sur au collège, on part sur des posters avec du collage et puis de la bombe. Donc okay. on allie les deux médiums. Le collage parce que ça c'est très intuitif. Je leur pose une problématique ou en tout cas un questionnement sur eux-mêmes et de ce questionnement, ils vont aller chercher des visuels dans les magazines que je vais leur proposer pour sortir un peu leurs émotions, leur passion aussi et finalement ça donne quelque chose de très intéressant et de très personnel aussi à ce moment-là. La personne à côté qui va faire le même collage va pas positionner ses collages de la même manière, elle va choisir peut-être des images plus gaies, peut-être des images plus dark. Ça dépend de chaque personne sur le moment et de ce qu'elle a envie de transmettre. Donc c'est hyper intéressant le collage et la bombe.
C'est de leur plaire du coup, je pense en majorité, non ?
Ouais. Il y a certaines personnes, c'est compliqué de se mettre dedans parce que pour elles sont pas créatives. Puis je pense que quand on vous dit que vous êtes nul, que ce soit dans n'importe quelle matière, bah, finalement, bah, on est nul dans tout. Et ça ne nous aide pas à sortir nos tripes dans ce genre d'activité. Et c'est vrai que ça peut être compliqué parfois, mais je les guide, je les amène à justement sortir un peu, sortir leur trip dans ce genre d'intervention. Quoi.
Et quels sont vos outils de travail ?
Dans mon atelier ou dans les ateliers que je pratique ?
Dans tout.
Mon outil de travail, bah, c'est la peinture acrylique classique, la bombe surtout, j'utilise beaucoup la bombe. J'aime la bombe parce que c'est un rendu qui est très facile. Comment dire, c'est un rendu lisse déjà que j'aime beaucoup. Sur le traité des Donald et Bugs Bunny, donc on est sur quelque chose de très géométrique qui est déjà très compliqué visuellement. Si en plus je rajoute de la matière, on risque de se perdre dedans. Donc c'est pour ça que j'utilise aussi un procédé plutôt lisse. Pour que justement visuellement ce soit plus attirant quoi. Donc après la bombe, j'utilise le sable, j'utilise du bicarbonate de soude, j'utilise vraiment tout ce que j'ai sous la main, des outils que je vais chiner en brocante pour peindre avec. Donc ça peut être des ressorts de voiture, ça peut être des chaussures, ça peut être des ballons de basket, ça peut être tout et n'importe quoi, j'utilise ce que j'ai sous la main quoi.
Pouvez-vous nous écrire une journée un peu type ?
Journée un peu type, journée carrément type, parce que c'est pratiquement la même routine chaque jour. Du coup, je me lève à 7h, petit déjeuner tranquille, 8h30, 9h, j'arrive à l'atelier. Je me fais mon petit café aussi, et je commence ma journée soit par dessiner, soit ça dépend, si j'ai déjà commencé une toile, bah, je la continue. Et ça jusqu'à l'heure où j'ai envie d'arrêter en fait. Ça peut être 18h comme ça peut être 23h. Je peux y passer 5h dans mon atelier comme je peux y passer 12h. Ça dépend de l'urgence que j'ai aussi derrière, si j'ai une expo à préparer, si j'ai des commandes, s'il y a tout ça quoi. Donc une journée type c'est ça, avec une petite pause pour faire un peu de sport aussi et puis... Donc je suis quand même assez libre dans ce que je veux faire de ma journée. Mais bon, c'est vrai que si je viens pas au boulot, bah il n'y a pas de création, il n'y a pas de potentiel vente derrière. Quoi. Donc,
Puis le fait d'avoir un atelier en dehors de chez vous, ça doit vous motiver aussi à plus ouais. Travailler.
Ouais, carrément. C'est pour ça que moi, il me fallait que je sorte de chez moi. Chez moi, je ne peux pas travailler en fait. Tout me déconcentre, que ce soit une mouche qui vole à côté, un chat qui passe... une envie de manger à ce moment-là, donc du coup je vais aller fouiller dans les placards pour voir ce qu'il y a à manger, donc finalement je suis pas concentré et chez moi c'est chez moi en fait, j'ai pas envie de mêler boulot et vie personnelle quoi. Donc c'est plus intéressant pour moi de faire 10 minutes de route pour aller dans mon atelier, au moins je sais que je sors pour travailler.
Ok. On va changer un peu de domaine de question, mais quelles sont ouais. Vos influences?
Mes influences graphiques ou autres
dans je sais pas comme vous voulez
mes influences je dirais déjà dans l'art mes influences j'ai très peu d'influences je regarde sur les réseaux sociaux tout ce qui se fait au niveau des artistes, mais je vais pas avoir forcément un artiste qui que je vais vénérer. C'est pas trop mon truc, mais justement des fois on me dit t'as ce style là d'un artiste que je connais. Ok, ouais, peut-être. C'est peut-être quelqu'un de très connu, mais j'ai aucune idée de qui c'est. Et en fait, je pense que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que je suis pas influencé par ce que font les autres dans ma création, quoi. Je vais pas les recopier, par exemple, du Jean-Michel Basquiat ou du Picasso. C'est pas mon intérêt de faire ça. Mais en tout cas, ça me je vais pas éplucher les livres pour justement être dans la création, quoi.
Et vous avez quand même des inspirations en général, enfin, on a pu voir beaucoup de pop culture récemment.
Ouais, mais non plus, j'ai pas vraiment l'inspiration. L'inspiration, elle vient de mon esprit, quoi. Donc, une fois que je commence à dessiner, bah, ça y est, j'ai des choses qui viennent, j'ai de la géométrie qui vient. Enfin, c'est très intuitif ce que je fais, mine de rien. Même si ça paraît pas intuitif du tout, il y a quand même une structure derrière, et la structure, elle vient de mon cerveau, quoi. Donc, c'est aussi tout mon bagage que j'ai en architecture, en graphisme. Et en soins énergétiques et thérapie, qui fait que je suis un peu plus libre dans mon esprit, et ça vient naturellement, quoi. Donc j'ai pas besoin d'aller éplucher les bouquins d'artistes connus pour m'inspirer.
Quels sont vos livres et films préférés?
Livres, j'ai pas beaucoup de livres préférés. Ce que je lis, c'est plutôt des livres de bien-être, de développement personnel, des choses très scientifiques aussi. En fait, tout ce qui touche au côté spirituel, astronomie, anatomie, physique quantique, toutes ces choses-là me passionnent. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de livres d'artistes. J'en ai un, c'est Soulage, que j'ai même pas encore lu. donc non, c'est vraiment des livres qui m'apprennent quelque chose. Tout ce qui est roman, j'ai du mal à m'identifier à ce genre de livres.
Et vous avez des musiques que vous écoutez plus en ce moment?
J'écoute beaucoup de musique au piano. Le piano, c'est quelque chose qui me détend quand je peins. Et... ou alors, après, ça dépend, je pars vraiment dans l'extrême, où je mets de la trance, de la techno-trance qui me stimule un peu, qui me met de bonne humeur. Et ça dépend vraiment de mon humeur. Mais c'est vrai que j'écoute la plupart du temps des musiques sans paroles. Je préfère la rythmique plus que le fond.
Que quand vous travaillez ou en règle générale?
Que quand je travaille. Okay. Ouais, que quand je travaille. J'aime aussi le silence, donc il y a des moments où j'ai pas du tout de musique. J'ai besoin de ma concentration optimale, donc c'est sans musique. Et ça me fait du bien, quoi. Parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, donc en fait, s'il va y avoir trop de bruit autour de moi, je vais pas être concentré à 100%, quoi.
Et quels sont vos artistes préférés?
Artistes préférés... j'ai pas d'artiste préféré, c'est... Non, j'ai pas d'artiste préféré, je suis pas comme certains à vénérer des artistes et à essayer de copier leur... pas copier leur style, mais être vraiment très influencé par eux. Je me laisse aller dans ce que je veux, quoi. Donc peut-être que ça peut ressembler à du Miro, des fois, peut-être que ça peut ressembler à du Picasso, mais je ne suis pas inspiré par eux réellement, quoi.
Est-ce que vous avez un courant dans lequel vous vous situez?
Non, parce que je suis partout, ouais. Et nulle part à la fois. Donc en fait, je suis autant dans ce qu'on appelle plus du street art, ou alors du pop art. Des fois, je sais faire de l'abstrait aussi. J'ai pas vraiment de style... À proprement parler, je dirais que j'ai juste mon style à moi et mon envie du moment à chaque fois. Donc, disons que je m'ennuie très facilement dans un style, donc j'ai besoin à chaque fois d'expérimenter autre chose, plutôt que de rester dans un style qui finalement est maîtrisé. Je préfère aller expérimenter autre chose et maîtriser encore autre chose, quoi. Donc,
C'est vrai que vos œuvres un peu déstructurées, ça n'a un peu rien à voir avec les choses très structurées que vous faites.
Enfin, c'est, y a par exemple, vraiment... celle-ci-là.
Ouais. Je pense à une autre qui était affichée au goût des autres il y a quelques mois, mais c'était vraiment quelque chose de très abstrait. Enfin, vous arrivez à vous diversifier.
J'ai plus en tête ce que c'était.
Je crois qu'elle était bleue et noire.
Bleu et noir avec des pastilles dorées dessus.
Oui.
Ah, donc ça, c'était les versions plus abstraites.
Ouais,
je l'avais faite en verte aussi. Et oui, il me semble que vous l'aviez vue, celle-là. Et c'est vrai que là, j'étais vraiment dans une série où je me laisse aller, en fait. Un peu comme cette série Mickey, où là, j'ai besoin aussi, à des moments, de lâcher sans trop me poser de questions, quoi. J'y vais, je peins, je teste des matières. Et ça me fait du bien, cette partie-là aussi. Je pense que j'ai besoin, en fait, d'avoir ces deux équilibres, d'avoir des choses très structurées, très précises, très contrôlées. Et d'avoir aussi une autre partie de tableau où là, je suis plus dans la découverte de moi, dans le lâcher-prise, dans quelque chose de plus intuitif. Et je pense que la combine des deux permet de moi me sentir aligné à chaque fois dans ce que je fais. Si j'étais trop dans de la rigueur, dans de la droiture, ça jouerait aussi sur mon comportement quotidien avec les gens. Je serais trop dans le contrôle avec tout le monde, même envers moi-même. Et finalement, d'être un peu dans le lâcher-prise aussi, bah, ça permet de tempérer, mes émotions aussi. Voilà.
Très bien. Vous nous avez un peu parlé de votre parcours spirituel, mais est-ce que vous pouvez en dire un peu plus, enfin, le décrire vraiment,
Ouais.
qu'est-ce que.
Du coup, je suis parti d'une dépression en fait que j'ai fait à Paris. Une dépression qui m'a amené à avoir des idées très noires. Et à ce moment-là, en fait, j'ai découvert des capacités psychiques que j'ai commencé à avoir. Donc, je commençais à avoir des visions, je commençais à entendre ce que pensaient les gens dans leur tête, je commençais à ressentir de plus en plus les émotions des autres dans mon corps. Donc, j'étais comme un peu déconnecté de moi. Et j'ai des personnes qui sont arrivées sur mon chemin, donc pour moi qui sont des guides, et qui m'ont réveillé, qui m'ont réorienté sur un chemin plus lumineux. Et donc ces personnes étaient des formateurs aussi de ces techniques spirituelles. Et ça a commencé par des thérapies avec eux. Et en fait, je me suis vite intéressé à cette technique, parce que c'était une technique qui était très intuitive. C'est pas la technique de psychologie classique, où il y a vraiment un échange entre deux personnes. Parfois même, le patient ne sait pas d'où vient sa problématique. Et ce que je trouvais intéressant, c'était cette technique-là en particulier, qui nous permet de nous connecter au cerveau de l'autre. Donc à travers des pratiques de méditation spirituelle et de connexion à l'autre. Donc en fait, on communique en faisant des lectures intuitives, ce qui fait que la personne en face n'a pas besoin de trop parler. C'est nous qui allons chercher sa problématique pour elle et essayer d'échanger sur cette problématique. Mais c'est très large. Donc cette technique, c'est la technique du Theta Healing, donc qui est une thérapie spirituelle américaine, qui date de 1995, donc elle est très 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 récente, et ça va très loin dans les modules et dans l'approfondissement de ta connexion spirituelle. On nous apprend à communiquer après avec des guides, avec les animaux, avec les anges, avec les archanges, avec des divinités autres. On nous apprend à faire des guérisons instantanées. On nous apprend quoi d'autre? À faire des lectures du futur. Encore plus loin dans les modules, on nous apprend la télékinésie, donc à déplacer les objets par la pensée. On nous apprend vraiment toutes les capacités que l'être humain a, mais que la plupart des gens ne savent pas. Donc en fait, grâce à cette technique, tu incarnes pleinement ta conscience spirituelle, quoi. Et cette conscience spirituelle te fait développer des capacités psychiques. Donc après avoir fait cette technique, bah, je me suis intéressé à une autre pratique, une pratique de soins énergétiques égyptiens. Donc là, je travaille en connexion avec la déesse Isis. Donc ça me permet de canaliser une énergie féminine, donc une énergie de sensualité, de créativité, de sexualité, que je retransmets moi dans le corps des personnes, pour justement retrouver l'équilibre masculin-féminin à chaque fois.
D'accord.
Donc ça agit au niveau de l'âme plus qu'au niveau physique. Mais bon, quand on vient toucher à l'âme, il y a aussi des choses qui se passent sur le corps.
Et est-ce que vous avez une philosophie de vie, du coup, un peu, qui va avec tout ça?
Philosophie de vie, pas vraiment, juste essayer d'être une meilleure version de moi-même chaque jour, d'apprendre de mes erreurs, comme tout le monde. Je suis pas parfait, loin de là encore, j'ai encore plein de choses à apprendre. Et j'essaie en tout cas d'apprendre des situations qui me mettent en colère, qui me mettent dans de la tristesse. Pourquoi je me mets en colère, pourquoi je me mets dans de la tristesse, qu'est-ce que cette personne ou qu'est-ce que cette situation a à m'apprendre. Donc j'essaie de les noter, j'essaie de les travailler, soit tout seul, soit avec des collègues de formation. Et finalement, ça me permet d'évoluer au quotidien et d'en apprendre toujours plus sur moi-même, en fait. Parce que c'est ça le but de notre vie, de notre existence, c'est d'apprendre à se connaître réellement et à s'aimer.
Très bien. Êtes-vous engagé dans des causes ?
Non. Non, je ne suis pas engagé dans des causes. J'ai déjà assez à faire avec moi-même, donc c'est déjà très, très compliqué à gérer. Pour ça, il me faudra un double, je pense. Mais non, je ne suis pas du tout là-dedans pour le moment. Peut-être que ça arrivera, mais pour l'instant, non.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'Association des artistes du Loir-et-Cher ?
Alors, les artistes du Loir-et-Cher, c'est une asso qui regroupe une bonne partie des artistes locaux donc du Loir-et-Cher, mais pas que, ça s'étend aussi un peu plus. Et cette association permet de faire exposer des artistes dans différentes régions du centre-val de Loire. Donc c'est très intéressant, c'est très régulier aussi. Mmh. C'est toutes les semaines qu'il y a des nouvelles expositions un peu partout. Et voilà.
Et un peu des greniers de Vineuil aussi.
Les greniers de Vineuil, moi j'ai connu les greniers il y a 2 ans maintenant, grâce à une copine qui est partie maintenant mais qui était couturière ici. Donc c'est grâce à elle que je suis arrivé ici. Et c'est vrai que c'est un lieu qui est simple, qui est chaleureux. Ouais. Même là, s'il n'y a personne, ouais, c'est vrai que ça fait un peu moins chaleureux, mais quand il y a du monde, c'est plus sympa. Mais non, on s'y sent bien, ça bouge tout le temps en fait. Il y a tout le temps des travaux, il y a tout le temps des personnes qui arrivent. Enfin, c'est assez chouette comme endroit.
Ouais, ça a l'air très convivial,
ouais,
en fait. Selon vous, quelle est l'importance de la culture générale et populaire dans vos réalisations ?
L'intérêt de la culture générale, après ça dépend ce qu'on veut transmettre dans nos tableaux. Il y a des artistes qui vont vouloir transmettre plus des sujets d'actualité politique ou sociétale. Moi je suis plutôt dans la transmission, en tout cas dans mon travail, dans certains travaux, la transmission de ce plan spirituel, donc qui va passer par des symboles que je vais canaliser et que je vais intégrer dans mes tableaux, ou par la géométrie. Ces tableaux, ok, ils sont visuels, mais ils montrent bien aussi la perfection géométrique du monde aussi, quoi. Tout est bien structuré, tout est à sa place, là où il doit être. Et cette harmonie fait que j'ai envie de la traduire aussi dans mes peintures. Donc c'est plutôt ça, quoi.
Est-ce que vous avez des recommandations, des conseils pour les personnes qui sont plus débutantes niveau art ?
Ouais, j'ai des conseils. Déjà, faut pas se dévaloriser. C'est pas parce qu'on n'a jamais fait de peinture qu'on peut pas être bon. Être bon, ça veut tout rien dire. Déjà, si tu expérimentes pas, tu ne peux pas savoir. Donc, puis c'est comme tout, hein. Un sportif ne devient pas un très grand sportif du jour au lendemain. Il va devoir travailler dur pour y arriver. Et même si on n'est pas content du résultat tout de suite, et en fait c'est un apprentissage, ça évolue. Moi-même, il y a des choses que je fais, je me dis oh, c'est pas terrible, mais en fait je m'encourage tout le temps à me dire que je peux faire mieux ou je peux faire différemment. Donc ouais, je pense qu'il faut suivre ses envies aussi, C'est vrai que moi, je suis plutôt du genre à faire ça. Donc, quand j'ai quelque chose en tête, j'y vais et je fonce. Je me pose pas la question de savoir si ça plaira aux gens ou pas. J'essaie juste de m'écouter moi et de me faire plaisir. Donc, je pense que c'est ça le secret, c'est de s'écouter et de se faire plaisir.
Et donc c'est un peu ce que vous avez appris au fur et à mesure de vos années de travail.
Ça, je l'ai appris plutôt avec mes formations
Ok.
de thérapie spirituelle. Parce que du coup, j'ai dû tout déconstruire de tout ce que j'avais appris jusque-là pour me reconstruire. Et finalement, je me suis, comment dire, rendu compte que j'avais pas les codes en fait. Enfin, en tout cas, j'avais pas mes propres codes. On m'a toujours inculqué des codes qui n'étaient pas les miennes. Et une fois qu'on apprend ça, c'est bien plus simple en fait.
Ah, merci beaucoup.
Eh bien, merci à vous.
Cette émission sera rediffusée chaque mardi sur les ondes de Studio ZEF et disponible en podcast à tout moment sur le site de la radio. À bientôt pour une prochaine émission au mois de décembre.